Bonjour à tous, Emmanuel avec vous pour la prochaine heure. J'espère que vous allez bien. Dans ce mois de février, où on est tous un peu tannés du froid, je sais pas vous. Moi, personnellement, c'est pas ma saison préférée. Mais pour réchauffer nos cœurs et pour cette semaine de la Saint-Valentin, parce qu'elle est pas loin derrière nous, on pouvait pas passer à côté d'un aussi grand et beau sujet qu'est le sujet de l'amour. L'amour avec un grand A. C'est la chose la plus précieuse du monde. En fait, on pourrait même dire qu'il n'existe rien d'autre que l'amour sur Terre, à moins qu'on ne la choisisse pas, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on parle de quoi? De l'amour entre deux personnes, d'aimer le pâté chinois, d'aimer nos chats? Est-ce que je vous ai dit à quel point j'aimais mes chats? Non, OK, je ne m'étirerai pas sur ce point. Est-ce qu'on parle de l'amour d'une mère pour son enfant, de l'amour romantique et passionné entre deux personnes ou encore de l'amour confortable et sécuritaire entre deux personnes? Puis là, est-ce qu'on parle réellement d'amour? Bien, clairement, si on revient à l'idée qu'il n'existe que l'amour sur Terre, on peut dire que oui, c'est l'amour. L'amour du confort et de la sécurité. Est-ce qu'on parle de l'amour de soi ou encore de l'amour tout court, hein, généralisé à la planète entière? Faire une émission sur l'amour, c'est grand. C'est aussi grand que le mot lui-même. Et c'est pour ça que je pense que je devais au moins souligner tous ces types d'amour et la fondation de la vie elle-même qui est amour. La vérité, c'est que parler de l'amour sous toutes ses facettes, ça prendrait une saison complète. Et même de juste l'amour romantique, ça prendrait autant de temps. Mais en considérant l'importance des relations amoureuses dans nos vies, et avec raison, là, j'ai eu envie de prioriser l'amour manifesté dans le couple, hein, l'amour entre deux partenaires de vie, l'amour véritable, le vrai, le grand, le seul, qui sait. Oui, qui dit relation de couple dit sexualité, dit engagement, ou pas, dit catalyseur de blessures et possibilité de guérir. Et c'est vraiment irréaliste de penser pouvoir couvrir tout ce que les relations amoureuses nous permettent, mais si au moins on peut mieux comprendre la place de l'amour et ce que ça veut dire pour nous et de se comprendre personnellement dans l'amour, ça sera déjà un grand pas. Et comme j'avais beaucoup trop de choses à dire cette semaine, eh bien c'est entre vous et moi seulement que ça se passe. Bienvenue à Emmanuel avec un M et deux L.
All you need is love.
L'amour. Par où commencer? Mais premièrement, en disant que l'amour, c'est une des plus belles expériences sur Terre possible. L'amour, ça a plusieurs formes, mais l'amour avec un grand A, c'est l'amour qu'on porte à tout, tout le temps, tout ce qui croise notre autre. On est amour, sincèrement. Le besoin de base de tout humain, c'est d'être aimé. Aimer et être aimé. Ça commence avec l'amour de nos parents, puis ensuite ça s'étend, ça se diversifie aussi. On aime nos amis, on aime nos frères, nos sœurs. Là, on a des animaux de compagnie à la maison, on se met à les aimer également. On aime des passe-temps. On développe des intérêts basés sur ce qu'on aime. On développe des goûts basés sur ce qu'on aime. En fait, on se définit puis on mène nos vies plus souvent qu'autrement en fonction de ce qu'on aime. Et de toute façon, quand on dit pas aimer quelque chose, ben ça implique nécessairement d'aimer son contraire. Est-ce que vous doutez encore qu'on soit juste amour et qu'il y ait juste l'amour sur Terre? Puis vient la vie amoureuse. L'amour romantique, comme on dit. Mais c'est quoi cet amour-là? Sincèrement, les définitions abondent entre émotions, sentiments, réactions biologiques face à quelqu'un d'autre. Si on parle des relations amoureuses, une des formes d'amour sur la planète, c'est d'être avec un partenaire. C'est nécessairement une des expériences de vie, un des contextes où on apprend le plus. Sur nous-mêmes, sur l'autre. Apprendre à se mettre à la place de l'autre, régler des conflits, respecter son espace, ses limites, celles de l'autre, communiquer, c'est sans fin. Et on est des êtres de relations. Cette opportunité-là, elle est extrêmement importante. Non seulement parce qu'on est des êtres en relation, mais comme j'en parle souvent, on vit dans un monde d'énergie et de polarité, hein, je l'ai dit, puis il y a les énergies masculines et féminines sur la planète. Je ne sais pas si on a bien remarqué ça, mais il y a des énergies aussi masculines et féminines. Mais je ne parle pas du sexe et du genre d'un humain, là. On a tous des énergies à la fois féminines et masculines en nous, chacun de nous. Et de balancer ces énergies-là, ça fait partie de la recherche d'équilibre de tout humain. Et la plupart du temps, ben, on la cherche dans ce partenariat-là amoureux. Et la majorité des gens se souhaitent cette relation-là. Une relation amoureuse qui est épanouissante, qui est riche, mutuelle, l'amour, le vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on semble avoir de plus en plus de difficultés à rester avec la même personne et à faire perdurer un amour en deux personnes quand c'est un de nos buts principaux, un de nos buts primaires? Il y a 15 années, il n'y a pas tant d'années, en fait, j'aurais eu une position ferme et j'aurais dit que l'amour de nos jours, l'amour est malade. J'ai déjà dit ça. Aujourd'hui, l'amour est malade. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a deux choses qui viennent jouer. La première, c'est cette idée que j'entretenais il y a quelques années et qui reste vraie. Simplement que je l'ai plus nuancée, j'ai avancé la réflexion à ce niveau-là, mais ça reste quand même une partie qui n'est pas nécessairement positive pour moi, et c'est bel et bien cette ère du marchandage de l'amour. Hein. Si ça ne fonctionne pas, on retourne ça au magasin puis on s'en procure un autre, tout simplement. On manque un petit peu de persévérance ces temps-ci, je trouve. L'autre chose, par contre, Et ça nous permet, du moins moi, ça me permet de, disons, tempérer ce point-là. On peut se dire qu'auparavant, être en couple, c'était pas nécessairement un choix et les raisons sous-jacentes à rester en couple, c'était pas toujours mieux. On connaît la pression de la religion sur les familles. Pour partir de la maison, la sécurité financière et matérielle, et que si on faisait pas ça, si on osait être différent, ben il y avait un jugement d'un village entier et on voulait pas ça, on avait simplement pas le choix. Et je me dis aujourd'hui, et si on était en réaction à cette période-là de notre évolution? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si certains sont des marchandeurs de l'amour, parce que je pourrais parler longtemps des comportements qui font qu'on fuit l'amour, mais mettons qu'on essaie d'avoir une conversation minimalement linéaire du point A au point B aujourd'hui. Même si certains, oui, sont des marchandeurs de l'amour, qu'on sait plus toujours c'est quoi l'amour puis qu'on cherche pas toujours à la bonne place, d'autres pourraient avoir une fondation très profonde de ce qui les motive à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Donc, à ce moment-là, de quitter, ça devient pas une fuite, un abandon, un évitement, un manque de persévérance, mais plutôt une action qu'on prend en fonction de ce qu'on souhaite et qu'on réalise qui n'est pas là où on se trouve. Et la possibilité de le faire aussi. On sent qu'on a le droit aujourd'hui de le faire. Être en couple ou être célibataire aujourd'hui, c'est des modes de vie tout aussi valables l'un que l'autre. Donc, est-ce que finalement, ça ne serait pas être plus courageux, plus éveillé, plus franc avec nous-mêmes que d'oser rester seul longtemps, que d'oser partir plus souvent des relations qui ne conviennent pas? Je pense que les deux sont vrais tout dépendamment d'où on regarde. Je pense que les deux continuent d'être vrais. Quand les raisons pour vivre une relation amoureuse sont plus profondes, plus complexes, plus authentiques, avec un désir de respecter et d'être respecté, de vouloir partager l'expérience de la vie avec quelqu'un pour apprendre continuellement, puis évoluer, puis pas simplement éviter d'être tout seul ou pour être confortable, bien, ça rend la recherche beaucoup plus difficile, mais ô combien plus riche. Mais il n'en demeure pas moins que la capacité à rester avec quelqu'un aujourd'hui, c'est pas facile et on peut parler des raisons plus religieuses, sécuritaire, matériel ou confortable des décennies précédentes, les relations amoureuses restent quand même une façon assez répandue pour répondre à nos besoins primaires, à la guérison de nos blessures. Et les raisons pour être en relation sont malheureusement pas nécessairement encore aujourd'hui toujours à la bonne place. De manière égoïste, se voir à travers l'autre d'une façon positive, puis entendez-moi bien, là, se voir à travers l'autre de manière positive, c'est primordial. Se sentir bien, sentir qu'on a de la valeur dans les yeux de l'autre et avoir... C'est important, là. Comprenez-moi, c'est comme majeur, c'est primordial, c'est un incontournable. Mais là, je parle plutôt d'une vision idéaliste de soi-même. Donc, quand de manière égoïste, on cherche à avoir une vision idéalisée de soi-même dans les yeux de l'autre... Ben, des fois, ça peut nous mener à chercher l'admiration plutôt que l'amour. Pour vouloir éviter d'être tout seul, on peut chercher la présence au lieu de l'amour. Pour se sentir en sécurité dans un monde où des fois, c'est difficile de sentir un sentiment d'appartenance, on peut chercher un mariage ou de l'engagement plutôt que l'amour. Oui, on confond souvent l'amour avec beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, l'amour, ça porte tous ces visages-là. Donc, c'est parfois difficile de se démêler puis de savoir si on est vraiment en amour. Pas vrai?
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Oui, on confond souvent l'amour avec beaucoup d'autres choses. Parce que l'amour porte tellement de visages que ça devient parfois difficile de démêler tout ça puis de savoir si on est vraiment en amour. Parce que si on parle de cet amour inconditionnel-là, on a tous entendu parler de l'amour inconditionnel. Et oui, le besoin d'aimer et d'être aimé, c'est le besoin le plus fondamental de tout être humain. Les humains, nous, hommes de la Terre, on a notre façon bien à nous d'aimer. L'amour inconditionnel reste un concept qui est connu, qui est étudié, dont on parle, on le nomme, mais ça reste très, 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 très rare et très peu appliqué encore aujourd'hui. La vérité, c'est que l'amour inconditionnel, c'est un concept connu, mais pas un sentiment connu. C'est pas une réalité qui est connue. Parce qu'on a mal et qu'on n'a malheureusement pas été aimé inconditionnellement dans nos vies. Alors comment dans l'optique où on peut seulement offrir ce qu'on a, à autrui dans la vie qu'on peut penser aimer inconditionnellement quand on n'a jamais su ni connu l'amour inconditionnel. Et malheureusement, c'est une roue qu'on perpétue malgré nous. Elle est nourrie par nos blessures, par nos peurs, peur de l'abandon, peur de se faire trahir, peur d'être seule, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre. Parce que qui dit amour dit vulnérabilité. On s'entend. Mais dit vulnérabilité seulement dans le contexte d'un amour conditionnel. C'est être vulnérable, être dans un contexte d'un amour conditionnel. Parce que s'il y a des conditions à recevoir de l'amour, ben c'est bien normal d'avoir peur. On se comprend. Parce qu'aimer inconditionnellement, c'est aimer la personne même si elle peut partir. C'est l'aimer même si elle n'est plus là. Aimer inconditionnellement, c'est souhaiter le bonheur de l'autre avec ou sans nous. Qui peut dire qu'il a aimé inconditionnellement dans sa vie? Maintenant, je pense que tendre vers un amour sans attache, sans attente, c'est merveilleux, c'est souhaitable, c'est la prochaine étape. Mais si on reprend où on en est aujourd'hui, je pense que prendre conscience des conditions auxquelles on veut et on peut répondre, c'est primordial. Et non seulement ça, mais également les conditions qu'on demande. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être aimé par vous? Qui est-ce qu'on doit être pour être aimé par vous? Parce que souvent, on se pose la question où on se dit « Ah, je n'étais pas assez pour lui ou pour elle, ou elle a tellement de conditions. » Là. Oui, c'est quoi les tiennes? Parce que tu en as. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être aimé par vous? Qui on doit être? L'affaire, c'est qu'on se demande souvent ce que la relation, ce que la personne peut nous apporter, et on se pose rarement la question à savoir ce que nous, on apporte, ce que nous, on met dans une relation. Et je ne parle pas juste du beau et de notre générosité, de notre présence et de la qualité de notre amour. Non, 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 non. De tout ce qu'on met dans la relation. Parce qu'en effet, quand on choisit notre partenaire, la plupart du temps, on voit en lui ou en elle la réponse à nos besoins affectifs, physiologiques, psychologiques. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais on en a tous. On a tous des critères de ce qu'on cherche chez un partenaire. C'est basé sur nos valeurs, comme le respect, la fidélité, la loyauté, le partage, l'indépendance, mais aussi sur nos besoins. C'est indéniable. Donc, qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter sur le plan émotionnel, physique, matériel? C'est vrai, puis c'est correct. C'est simplement incomplet. On se connaît très mal en relation, finalement. On est beaucoup plus occupé à voir l'autre dans la relation. On passe, malheureusement, souvent à côté de la capacité de se découvrir, d'apprendre à mieux se connaître soi-même. Quand on apprend à connaître quelqu'un là, qu'on vient de le rencontrer, tout le focus est sur cette personne-là. Ce qu'il aime, ce qu'il fait, qui il est, comment il agit avec nous, comment on se sent par rapport à ça, mais quand même en fonction de ce que lui ou elle fait et non en fonction de nous. On se regarde que trop rarement aller. Et on va discuter un peu plus tard de ce qui peut nous aider à trouver nos réponses, à mieux vivre l'amour, à épuiser toute la beauté, tous les bénéfices, comment on peut se voir aussi, parce que en se voyant aller, ça veut dire qu'on apprend et ça veut dire que les conditions qu'on met et les peurs diminuent et donc qu'on se rapproche pas mal d'un amour beaucoup plus beau et beaucoup plus inconditionnel, vous me voyez venir. On se comprend. Une chose que je peux dire par contre, c'est que l'amour, ça ne suffit pas. Pour créer une relation amoureuse, l'amour, ça ne suffit pas. Et ça, des fois, ça fait un peu mal. Pourtant, on s'aime. Oui, mais quoi d'autre? On va regarder quoi d'autre dans quelques minutes. Mais avant tout, je veux vraiment, absolument, nommer un des aspects principaux de l'amour, qui est l'amour de soi. Oui, je l'ai dit. L'amour de soi. qu'on mélange souvent avec de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du narcissisme. Même, on dirait qu'on nous décourage un petit peu à s'aimer. Faut pas être fier, faut pas trop s'aimer. Mais c'est tellement, tellement destructeur. On n'a aucune idée. C'est la base. C'est la fondation du reste. Parce qu'on peut offrir aux autres seulement ce qu'on porte en soi, je l'ai dit et je le redis. Comment est-ce qu'on veut pouvoir aimer quelqu'un si on ne s'offre pas l'amour à soi en premier? Si on ne peut pas s'aimer nous-mêmes? Et avec un univers qui se base sur la loi de l'attraction, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer l'amour à soi quand on ne le porte même pas en soi et à soi-même tout d'abord? Parce que notre univers reflète notre intérieur. C'est un peu utopique de penser que ça puisse arriver, finalement. Et en continuant sur l'idée que le monde est énergie et polarité, et en continuant à parler de ce qui se trouve en soi, de balancer le féminin et le masculin en soi-même, et aussi le premier pas à faire, parce qu'une fois complet, on évite de mettre le fardeau de toute une partie de nous-mêmes sur quelqu'un d'autre, ben ça fait également partie de cet univers dans lequel on évolue, dans cet univers relationnel et amoureux. Comment qu'on peut gérer tout ça? Pensons-y. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le canal M et on parle toujours d'amour cette semaine.
Existe encore.
À chaque semaine, je parle de se comprendre. Je parle des peurs, je parle de conscience, de prendre conscience, et clairement, ça s'applique aussi en amour. Je veux dire, je pense que c'est un domaine où on est le plus, en bon français, challengé, parce que défié, je trouve que ça reflète pas bien la situation. Mais s'il y a une des situations dans lesquelles on est le plus challengé, vu la vulnérabilité, vu les patrons de comportement, et c'est cliché de dire que notre enfance revient dans nos couples, mais croyez-moi, c'est vrai. Eh bien, je pense que ça, je ne dirais pas justifie, je pense que ça supporte bien l'idée de l'importance de se comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de se comprendre, ça apporte aussi l'idée d'avoir moins de blessures, de régler ce qui est en nous et donc de tendre vers un amour beaucoup plus sain. Mieux se comprendre, mieux comprendre l'amour dans sa vie, c'est pouvoir le vivre librement, pleinement et avec amour. Savoir la place de l'amour dans notre vie. Parce que non, je ne donnerai pas une recette en 10 points sur comment trouver l'amour dans la vie. C'est quoi l'amour? C'est quoi pas l'amour? Non, je ne suis pas là pour vous dire comment vous devriez être aimé et comment vous devriez aimer. Je n'ai pas cette réponse-là. Il n'y a pas de réponse. Mais il y a des petites choses quand même que j'essaie d'appliquer dans ma vie et que je pense qui sont de base et qui offrent une latitude suffisante et personnalisée pour nous aider au moins à réfléchir. Et ça commence, oui, par la place de l'amour dans notre vie. Quelle place vous accordez à l'amour dans votre vie? Et en fonction de la place que vous accordez à l'amour dans votre vie, est-ce que vous cherchez à la bonne place ou est-ce que vous avez trouvé à la bonne place? Est-ce que vous êtes présentement avec quelqu'un qui a la même vision que vous? C'est la base parce que même si on ne veut pas nécessairement sortir avec son miroir, on se comprend, là, la signification, la place qu'on donne à l'amour dans nos vies doit non seulement être comprise par nous-mêmes, mais elle doit être aussi retrouvée chez celui ou celle avec qui on veut faire notre vie. Tu sais, c'est la fondation. Moi, je vous donne un exemple. Pour moi, et je l'ai dit en début d'émission, l'amour, la relation amoureuse, c'est une des plus belles expériences qu'on puisse espérer vivre sur Terre. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que j'ai enfin avouer cette vision-là, ce désir que j'ai par rapport aux relations amoureuses. De dire oui, j'avoue que pour moi, avoir un partenaire de vie, c'est primordial, c'est une priorité, c'est nouveau. Avant, je niais, je déniais, je refoulais, parce que je pensais, moi j'entretenais la croyance que c'était associé à être dépendante. Je trouvais ça pas très cool en fait. Moi, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que ça pouvait être un des plus beaux projets sur Terre, que c'était courageux de vouloir ouvrir son cœur aussi profondément et de vouloir expérimenter l'intimité avec quelqu'un. Tu sais, j'avais pas cette vision-là. Bon, ça arrive. J'ai même fait le test récemment. Je parlais avec un de mes amis. C'est quelqu'un qui est très ouvert, peu jugeant. Et j'ai fait le test et j'ai dit que trouver un chum, vivre un grand amour, pour moi, c'était une priorité. Et sa réponse a été « Hein? Avant ta carrière! » Et j'ai été jugée. J'ai été jugée. Ma réponse à ça a été « Ben, on peut pas mélanger des pommes puis des oranges. » Tu sais, ça va pas à même place dans mon être. Comme... C'est tellement pas la même chose. Et je me suis rendu compte que c'était pas fou, finalement, d'avoir cru que c'était mal pendant si longtemps, parce que il semble que j'étais peut-être pas la seule à penser c'était un peu dépendant. J'avais peut-être internalisé un peu une vision plus généralisée de cette idée. C'est ce que j'ai ressorti de cette conversation, finalement. Bref, tout ça pour dire que si pour moi l'amour, c'est aussi important, c'est primordial que même si cette vision-là n'est pas partagée par tout le monde, de toute évidence, comme dans mon exemple, ce soit au moins minimalement partagé par la personne avec qui je veux le vivre. On se comprend. Tu ne choisis pas de faire un voyage. Si toi, tu veux aller en voyage sac à dos au Vietnam, quand ton ami avec qui tu veux que tu voyages, lui veut aller faire de la plage au Mexique. Et même si la plupart de nous trouvent totalement logique de ne pas voyager avec quelqu'un qui n'a pas la même destination que nous autres, il reste que plusieurs d'entre nous décident d'essayer de construire une relation avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que nous en pensant qu'on n'est pas obligé d'être pareil. On peut pallier à ça, on peut peaufiner au fil du parcours. Non. La vérité, c'est qu'idéalement, tu peux partir sur des bases solides et ça entend... Ça sous-tend la façon dont la base est construite. T'sais, c'est construire avec les mêmes matériaux. Idéalement. Comprendre la place de l'amour dans notre vie et comprendre c'est quoi l'amour pour nous, à quoi ça répond, vers quoi on voudrait plutôt tendre si ce qu'on cherche actuellement ne nous sert pas. Et je vais vous faire une grande confidence, en fait. Je partage avec vous un bout de moi et ça illustre bien ce que je vous invite à faire aussi. Ça peut être très, très amusant. Moi, j'ai parlé de ce point de vue-là à une amie la semaine dernière. Il a absolument zéro compris puis il pensait que je pensais qu'il n'y aurait personne dans la vie pour moi. Mais ce n'est pas du tout ça mon propos. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous l'illustrer. Moi, j'ai fait une prise de conscience cette année. Bienvenue dans ma tête, vous voyez que chaque année, je fais comme 4 prises de conscience majeures. Ça, c'est ma vie. Bon. C'est donc très, très frais. Je pensais à l'amour que je recherche dans ma vie. Et oui, je fais partie de la génération Disney. Oui, je fais partie de celles qui ont vu des princes charmants tous les jours entre l'âge de 3 et 9 ans. T'sais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne souhaite pas me marier. Ou si je le fais, ça va être vraiment très, très axé sur l'amour. Je veux même... enlever tout engagement financier relié au contrat. Je veux pas que ce soit ça. Je veux pas de fla-fla. Je veux pas d'endettement pour une journée. Simplement, l'idée de souligner ou de célébrer l'amour avec des gens qu'on aime, ça serait joli. Et même à ça, c'est pas suffisant. C'est pas obligé. Par contre, je reste avec l'idée qu'il y a une bonne personne pour moi. L'âme sœur. Le lui, le un, l'unique. Et ça fait partie des grands dilemmes, des grandes questions existentielles sur l'amour. Hein? On a toute notre opinion là-dessus. Et moi, je dis que peu importe notre opinion sur ce qui devrait être pour tout le monde, parce que souvent, on essaie de faire en sorte et de prouver que notre opinion est généralisable à la planète entière. Non, notre opinion est importante pour nous seulement. Peu importe ce que vous croyez par rapport à ça, il n'y a pas de bonne réponse. Seulement ce qui vous rend bien, ce qui nous rend bien nous-mêmes. Et je lis beaucoup sur l'amour et considérant que l'amour, c'est l'essence même de la vie, plus on aime, plus on s'ouvre le cœur, mieux c'est. Donc logiquement, plus on aime de personnes à la fois, de manière non exclusive, plus naturel c'est. Et non seulement en nombre, mais en genre aussi. Moi, quand j'étais jeune adulte, je disais souvent à ma sœur que j'aurais aimé ça être bisexuelle. Sincèrement, là, j'ai dit à ma sœur, j'aimerais ça être bisexuelle, ça me donnerait plus de choix. Je trouve que c'est absolument merveilleux d'avoir la terre entière à tomber en amour avec. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour moi, je suis hétérosexuelle, faut y aller avec le package de base. T'sais? Et pourtant, j'ai beau essayer, pour revenir à l'idée de penser qu'il y a un seul unique, et je reste avec le profond sentiment que je peux pas aimer plusieurs personnes à la fois. En fait, je ne peux pas être dans une relation où il y a plusieurs personnes, une relation dite ouverte. Moi, je suis monogame, rigide, imperturbable. Sincèrement. Puis je me suis mise à me questionner pourquoi. Parce que c'est pas grave d'être monogame puis de souhaiter l'âme sœur, le seul qui m'attend sur un quai avec un coucher de soleil, des hirondelles en forme de cœur dans le ciel. C'est pas grave. Mais Il reste qu'il doit bien y avoir quelque chose qui explique cette vision-là en moi, puis j'essaie d'ouvrir un peu puis de la comprendre sans vouloir la changer, juste la comprendre. Puis j'ai compris quelque chose. J'ai eu une petite lumière à l'intérieur de moi. Je me suis dit, s'il n'y a pas ce un-là, cette âme sœur, cette personne prédestinée pour moi, seule, ça veut dire que moi, je ne suis pas cette une-là pour quelqu'un, la seule, l'unique. Et donc, d'être spéciale et choisie et considérée, c'est important pour moi. C'est ça que j'ai compris. Et à partir de là, je peux essayer de comprendre ça implique quoi de vouloir être choisie, quelles conditions ça met dans le couple, quel impact ça peut avoir dans ma vision, dans ma perception des comportements de l'autre. Et c'est de ce dont je vous parle quand je vous dis de voir à quoi ça répond l'amour pour nous. C'est profond, mais c'est ça. Un exemple encore plus simple, hein, c'est souvent on dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Et là, si on a le malheur de se souhaiter quelqu'un que l'on trouve beau extérieurement, on a peur d'être superficiel, on est un peu honteux, on trouve qu'on n'a pas, on manque de profondeur. Mais moi, je vous dis que c'est absolument important d'avoir quelqu'un à nos côtés qu'on désire, qu'on trouve beau, je veux dire, c'est le minimum des choses. Et la beauté dans les yeux de celui qui regarde, elle est très relative, mais tout de même. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a ce critère-là, qui a envie d'être avec quelqu'un qu'il trouve très beau physiquement, peut le nier et va vivre dans des relations qui ne seront absolument pas à la hauteur de ce qu'il se souhaite et il va le vivre de toute façon. Oui, un corps, ça vieillit, c'est éphémère et une beauté extérieure, ça ne pallira jamais et ça comblera jamais un intérieur qui est moins beau et qui ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter. Si c'est un critère pour vous, acceptez-le, mettez-le, chérissez-le, c'est important pour vous, c'est tout. C'est ça aussi, se comprendre, puis savoir ce qu'on veut dans une relation. C'est la même chose pour ceux qui souhaitent avoir un petit peu moins d'engagement puis d'intimité possible, tu sais, parce que intimité rime avec vulnérabilité. Puis si on évite à tout prix d'être intime avec quelqu'un, il faut comprendre que ça implique beaucoup de choses. En fait, ce que ça implique, c'est que ça c'est une menace. On se sent menacé. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'intimité qui fait si peur que ça? Qu'est-ce qui nous rend si vulnérables? Et cibler nos peurs, c'est un autre point qui est majeur. C'est extrêmement important, au même titre que cibler nos besoins, nos désirs, nos valeurs, parce qu'on les agit quotidiennement, consciemment ou non, et on se rappelle que ce sur quoi on met la lumière, ça disparaît, ça ne nous contrôle plus. Et l'une des plus grandes peurs en ce qui concerne les relations amoureuses, c'est la peur de perdre. Certaines personnes vont esquiver les relations toute leur vie pour éviter de perdre ce qu'ils n'ont même pas, finalement. C'est un peu fou. D'autres vont aller dans des relations quand même et vont vivre dans une peur, consciente ou non, de perdre constamment tous les jours. Mais quand on comprend que personne ne nous appartient, personne n'est à nous. Notre partenaire ne fait pas exception. Hein? Notre conjoint, notre chum, notre blonde, ce n'est pas à nous. Elle ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Ça nous permet de laisser aller cette peur-là et de voir que malgré que cette personne-là ne soit pas obligée d'être avec nous, elle est là aujourd'hui. On est capable de se ramener au quotidien. On est capable de chérir. Une relation, ce n'est pas pour l'autre, c'est avec l'autre. Une relation, c'est dans l'ici et le maintenant. C'est le moment présent parce qu'on est des êtres en évolution et on ne sait jamais où notre évolution va nous mener. Donc, on peut éviter les fausses promesses aussi en disant « on va s'aimer pour toujours ». On peut prendre un engagement, le souhaiter et le désirer, mais on ne le sait pas. Et quand on parle de critères, je vous souhaite un partenaire avec qui vous pouvez évoluer. Le potentiel d'évolution, c'est merveilleux, sans jamais oublier qui on a en face de nous aujourd'hui et maintenant, parce que Dieu sait que de projeter ce que ça pourrait être, c'est une belle illusion, mais aimer ce qui est maintenant et voir le potentiel d'évolution de manière balancée, c'est une base qui est belle et qui est saine en relation amoureuse.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Me m'aborde, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Savoir comment on aime et comment on veut être aimé. Et c'est primordial parce qu'il existe plusieurs façons d'aimer et c'est pas la même pour tout le monde. Notre façon de démontrer notre amour à notre partenaire pour que ça fonctionne, il doit y avoir un certain arrimage entre les façons d'aimer des deux personnes pour qu'on soit dans la joie, dans l'épanouissement, pour qu'on ressente l'amour ou du moins comprendre comment l'autre aime et voir si ça nous convient et si on ressent cet amour-là, si on la comprend, etc. Je vous donne un exemple. Il y a un homme qui, lui, sa façon d'aimer sa femme, la meilleure façon, la façon la plus profonde et la plus éloquente de démontrer son amour à sa femme, à sa blonde, à sa partenaire, c'est sur le plan des actions matérielles. C'est faire à souper, faire le ménage, réparer son auto, c'est déneiger la cour. C'est ça pour lui, aimer de manière claire. C'est sa meilleure façon, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ça. Pour la femme, elle, elle a besoin de se faire toucher, elle a besoin d'embrasser, elle a besoin de contact physique, de conversation profonde, de stimulation intellectuelle. Il y a deux options dans cette idée-là. C'est que ces personnes-là se complètent bien, mais au final, si ce qu'ils ont besoin n'est pas en l'autre, ça risque de se séparer à un moment donné. Donc, de comprendre comment on a envie d'être aimé, mais également comment on aime, bien, ça permet d'être transparent à la base, de se poser les bonnes questions et de le cibler rapidement. Il n'y a pas de bonne réponse. Savoir ce qui nous fait réellement plaisir, connaître nos besoins, comment on aime, c'est aimer en pleine conscience. C'est pas aimer parfaitement, mais c'est aimer en pleine conscience. Et ça, c'est déjà assez parfait. Pensons-y. Et ne jamais s'oublier dans la relation, tant sur le plan de prendre soin de soi que des apprentissages faits et à faire, que notre contribution, que nos conditions, que ce que nous mettons dans la relation. Parce que quand on fait ça, ça responsabilise, ça diminue les blâmes et ça offre une opportunité d'évolution. Et je souhaite à tous de pouvoir l'apprendre. Et finalement, s'aimer soi-même comme on veut être aimé. Et j'en ai parlé en début d'émission et je vais en reparler et l'illustrer davantage parce que c'est le point majeur pour moi. Dans un monde où la loi de l'attraction est une des lois universelles de la vie, de son fonctionnement en soi, c'est la base du monde d'énergie dans lequel on vit. Comment on peut attirer l'amour quand on ne s'aime pas soi-même? Puis s'aimer soi-même, on est tanné de l'entendre, mais on comprend maintenant pourquoi c'est si important. Vous demandez où vous en êtes dans l'amour de vous-même? Bien, regardez comment les gens vous aiment. Regardez autour. Quel genre d'amour vous attirez? Un amour critique? Un amour qui abandonne? Un amour qui respecte vos besoins ou pas? Un amour qui vous écoute? Qui vous entend? Ou pas? Si vous pouvez écrire quel genre d'amour vous vivez autour de manière détaillée, ce que vous ressentez quand vous êtes avec les personnes qui vous aiment au sens large. Donc, comment vous vous sentez, comment on vous aime et qu'est-ce qui revient souvent, les patrons de relations, comme on les appelle, bien, vous allez savoir à ce moment-là la façon dont vous vous aimez vous-même. Et la journée où vous allez cesser d'être intransigeant et constamment critique avec vous-même, bien, les gens vont arrêter d'en attendre autant de votre part. Quand vous arrêterez de penser que de toute façon, tout le monde va vous quitter un jour ou l'autre et que vous allez commencer à concevoir que les gens peuvent rester, les gens vont arrêter de vous quitter. Quand vous vous respecterez dans vos besoins, dans vos désirs, les gens vont respecter vos besoins et vos désirs. Ils vont les chérir avec vous. Ils vont mettre des choses en place pour vous permettre de les vivre pleinement. Quand vous allez vous aimer complètement, même dans vos plus grands défauts, on va rire avec vous de vos défauts. On va les accepter et on va les aimer aussi. Non seulement vous aimer complètement va vous permettre d'être aimé complètement, mais ça va également vous permettre de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que vous allez vous l'offrir à vous-même. Et l'amour de l'autre à ce moment-là va être un gros bonus uniquement. Ça va être un gros cadeau et non plus un besoin. Je veux simplement dire qu'on ne peut jamais aimer trop. Il y en a qui disent « Ah, tu l'aimes trop, tu m'aimes trop. » Dire qu'on peut aimer trop, c'est comme dire qu'il y a trop de paix dans le monde. Il ne peut pas y avoir trop d'amour, c'est complètement insensé. Je pense qu'on peut simplement aimer mal, mais on ne peut jamais aimer trop. Merci à Anne-Laure Janson à la recherche. Merci à Jean-Sébastien La Liberté. N'oubliez pas d'aller visiter le canalem.vusezvoix.com pour toute la programmation. Pour réécouter cette émission, si vous en ressentez le besoin, allez sur notre page Facebook également. Et merci d'avoir été là la semaine prochaine.